France Culture.
Bonsoir Jacqueline Lafont.
Bonsoir.
Alors on vous retrouve pour ce deuxième épisode intitulé « La défense, la méthode AIC ». Hier, nous avons évoqué votre enfance au Cambodge, mais aussi à Paris, et l'importance de la notion de justice dans votre famille et les événements qui l'ont marqué, notamment l'affaire Dreyfus et votre lecture de l'affaire de Jean-Denis Bredin. Nous revenons à vos débuts en tant que jeune avocate. Vous décidez tout de suite de devenir pénaliste. C'est pas avocate, c'est avocate pénaliste, votre vocation.
Oui, pour moi, avocate pénaliste, ça ne faisait qu'un dans mon esprit. Voilà. Ça n'était pas dissociable. Je n'ai même jamais envisagé d'être autre chose qu'avocate pénaliste. Mon père n'était pas très d'accord avec ce choix. Il aurait préféré que je sois magistrate. En fait, je n'ai jamais voulu juger. J'ai toujours voulu défendre. Les choses étaient très claires et c'est un sujet sur lequel j'étais totalement déterminée. À partir du moment où j'ai fait du droit, en tout cas, ça a été pour devenir avocate pénaliste.
Alors, vous entrez comme stagiaire dans un cabinet d'affaires. Vous travaillez sur la seule affaire pénale, je crois, de ce cabinet, qui est une affaire de viol. Et là, vous allez rentrer pour la première fois en prison et découvrir ce milieu carcéral à travers la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans les Yvelines.
C'est au début des années 80. Je prête serment en février 84. Avant cela, j'ai donc fait mon stage en tant qu'élève avocate. Donc, dans les années 82-83, l'école durait à peu près 2 ans. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, mon père n'était pas très pour que je devienne avocate, mais le directeur de l'école de l'époque, qui était par ailleurs très sympathique, voulait absolument me convaincre, pensant que j'étais un élément qui méritait, non pas de faire du pénal, mais de faire du droit des affaires, d'essayer le droit des affaires. C'est la raison pour laquelle, contrairement à mon souhait, j'ai atterri non pas dans un cabinet de pénalisme, mais dans un cabinet de droit des affaires. Ils ont été adorables, j'ai appris plein de choses qui m'ont sûrement servi aujourd'hui. Mais il se fait que le hasard a fait qu'un des jeunes associés avait accepté de prendre en charge un dossier pénal, l'unique dossier pénal du cabinet. Et je m'en suis vraiment saisie. Je me suis complètement impliquée et investie dans ce dossier. Et c'est dans ce contexte, en effet, que j'ai eu l'occasion d'aller pour la première fois de ma vie en prison. C'était à Bois d'Arcy. À l'époque, cette prison qui est toujours très impressionnante est une prison qui était vraiment au milieu de nulle part, au milieu d'espèces de prairies séchées avec des bouteilles jetées par les détenus par leurs fenêtres. Et puis avec des... Je me souviens de ces moments comme si j'y étais, en fait. C'est vraiment un moment qui m'a marquée. Il y a des choses que j'ai oubliées, mais ça, c'est très présent dans ma mémoire. Il y avait des oiseaux noirs partout, des sortes de miradors autour de cette prison, des barbelés au-dessus des murs qui encadraient les miradors. Et j'ai le souvenir d'être rentrée dans cet espace clos avec le cœur qui battait en étant très impressionnée et d'avoir rencontré pour la première fois quelqu'un qui était incarcéré. C'est un souvenir fort et c'est un souvenir qui ne m'a pas quittée parce que on va souvent en prison quand on est avocat pénaliste. On s'habitue quand même un peu, mais en réalité, c'est quelque chose qui reste. Et à l'époque, c'était encore plus violent parce que les télévisions en prison n'existaient pas. Les téléphones n'étaient pas permis. Il y avait une coupure absolument totale avec le monde extérieur. Et la place que nous prenions dans ces conditions de cette époque-là était encore plus fondamentale, puisqu'on était vraiment le seul lien entre le juge et le détenu, mais aussi entre le détenu et l'extérieur.
Il y avait des visites quand même de famille.
Oui, il y avait bien sûr des visites. Il y a toujours eu des visites, mais elles étaient accordées beaucoup moins facilement. C'était assez réglementé. Et cet homme-là n'avait pas beaucoup de visites parce qu'il faut aussi que les familles puissent venir, puissent se déplacer, puissent avoir le temps de le faire.
Quel souvenir vous avez justement de l'intérieur de cette prison? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont saisi? On imagine quand même, vous êtes encore une toute jeune femme, très jeune avocate. Est-ce que vous avez été surprise par les conditions de détention?
Alors,
Jacqueline Lafont,
vous savez peut-être que nous ne pénétrons pas dans la partie des cellules. Nous sommes dans la partie des parloirs avocats. Mais lorsque l'on traverse ce corridor dont je vous parlais, derrière les barbelés et derrière les miradors, on traverse cette espèce de pelouse et on voit là les bâtiments des détenus avec leurs petites fenêtres et leurs barreaux. On les entend crier. C'est quelque chose de très sonore, en fait, déjà l'entrée en maison d'arrêt. Et... ce qui m'avait frappé, en réalité, c'était ces portes énormes qui faisaient un bruit énorme et le nombre de portes incalculables qui se refermaient derrière vous. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que j'entrais dans cet univers-là, je mesurais à quel point on s'éloignait du monde et à quel point on était ailleurs dans un lieu clos, totalement clos, à un point que je n'avais pas imaginé. Et lorsque j'ai vu arriver cet homme, je me souviens de son arrivée pour la première fois. Il est donc rentré dans le parloir, dans un tout petit parloir où on a une petite table qui nous sépare. Instantanément, encore une fois, j'étais dans un cabinet d'affaires, je n'étais que totalement confirmée dans ma détermination à être avocate pénaliste. Je me suis dit que c'était un métier extraordinaire, formidable, dur, poignant parfois. Cette première visite en prison, elle a été à la fois un choc et en même temps une confirmation de mon choix.
Alors, Jacqueline Lafont, il faut que vous nous expliquiez justement cette vocation qui est celle de la défense parfois de criminels, en l'occurrence là d'un violeur. Vous avez fait des stupes, vous avez fait tous les secteurs possibles du pénal, puisque ça va être l'objet principal de vos dossiers pendant au moins la première décennie, et puis vous allez continuer ensuite. Quelle est votre ligne à vous en tant qu'avocate de ce droit de la défense ?
En fait, ça rejoint un peu tout ce que je vous disais, des choses qui m'avaient frappée enfant ou adolescente. Ma ligne à moi et ma volonté d'exercer ce métier, c'est que je pense que dans le cadre d'une procédure pénale, quand vous êtes confronté à cet engrenage judiciaire, à cet appareil judiciaire qui n'est pas nécessairement un engrenage, il faut que je pèse mes mots, eh bien, vous avez un prévenu, celui qui doit se défendre, celui qui est accusé, celui qui risque sa liberté, celui qui risque son honneur, celui qui risque d'une certaine façon sa vie, qui est dans un état, je dirais, de déséquilibre structurel. Structurellement, la personne que vous défendez, elle est dans un état de faiblesse, en réalité. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, et je me rends compte aujourd'hui en défendant d'autres catégories de personnes, que ce déséquilibre-là, il existe toujours. Alors évidemment, des progrès ont été faits, un certain nombre de progrès ont été faits, mais c'est ce que j'ai trouvé absolument frappant, et c'est ce qui m'a donné envie d'être avocate. Des gens parfois qui ne savent pas parler, quand je dis pas parler, tout le monde sait parler, hein, mais qui ne savent pas exprimer les choses, qui sont les derniers à pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait ou à pouvoir se défendre. Il y a ceux qui sont les coupables idéaux et qui ont tellement peu de mots et de vocabulaire que ils sont des coupables désignés d'avance. En fait, c'est cette volonté d'essayer modestement, on n'y arrive pas toujours, de rétablir ce balancier, cette balance qui devrait être une balance et qui, en réalité, ne l'est pas totalement.
Et c'est l'idée que tout le monde doit être défendu. C'est les droits de l'homme, les droits de la défense.
Voilà. Tout le monde doit être défendu, évidemment. Et je crois que j'ai puisé dans cette expérience-là, que j'ai trouvée d'une richesse inouïe, cette force, je l'espère, en tout cas, cette puissance dans le désir de défendre et dans la défense. Et je trouve que c'est transposable à n'importe quelle situation de défense pénale. Lorsque vous défendez, par exemple, en comparution immédiate, un homme qui a été condamné 10 fois et qui a un casier judiciaire à rallonge, en réalité, pour des faits qui ne sont pas d'une grande complexité par rapport à d'autres faits que j'ai eu à connaître plus tard, en réalité, il n'y a rien de plus difficile que cela. De trouver les mots, d'essayer de montrer que non, cette plaidoirie-là, même si elle est la dixième, elle n'est pas vaine. D'essayer d'expliquer que cet homme-là, s'il est là, mais pourquoi est-ce qu'il est encore là, en dépit de tous les avertissements, d'essayer de démontrer que cette espèce d'engrenage qui fait qu'on essaie à chaque fois de monter un peu plus, il est vain aussi. En fait, on a toujours qui que ce soit dans le box, quelque chose à dire. Quelque chose à dire de son histoire, quelque chose à dire sur la façon dont les faits se sont déroulés, que l'individu que vous défendez, l'homme que vous défendez ou la femme que vous défendez, reconnaisse ou pas les faits. Il y a toujours quelque chose à raconter.
Y compris pour le criminel qui a avoué et dont vous allez raconter l'histoire et les circonstances.
Absolument. Lafont. Absolument. Et j'ai tellement de souvenirs, en fait, de cette période-là qui fut riche, au cours de laquelle j'ai énormément plaidé. Et je me souviens de mes deux premiers procès d'assises. On parle de criminels, donc je vous parle de cours d'assises, mais il y a des procès plus ordinaires qui sont des procès très importants aussi et que j'ai conservés en mémoire. Le premier, c'était une affaire à la cour d'assises des mineurs de Créteil. C'était une affaire atroce de ce qu'on appelle, dans notre jargon terrible, les tournantes, c'est-à-dire les viols en réunion. C'était une cité de Créteil. Et en fait, je défendais un jeune mineur qui était accusé avec d'autres mineurs d'avoir violé une jeune fille. Et tout ça s'était passé dans une cave absolument sinistre. Et j'étais très jeune, je plongeais dans ce monde-là, dans la misère de ce monde-là, dans la misère sexuelle mais affective. Ce jeune homme que je défendais, je me souvenais que personne n'était venu le voir. Il était tout seul. J'étais allée le défendre parce qu'on n'avait pas voulu le laisser tomber. Il n'avait évidemment pas les moyens de payer ses défenses. Et cette découverte-là, cette misère-là partagée, en réalité, la jeune fille était évidemment perdue, terriblement blessée, mais ils étaient presque des victimes tous ensemble. Et voilà, ça a été ma première confrontation à cela. Et puis, il y en a eu bien d'autres. Cet homme aussi que j'ai défendu ensuite devant une autre cour d'assises qui avait mis le feu à son hôpital psychiatrique. Il avait été, il était le fils du père de sa mère. Donc déjà un point de départ dans la vie compliquée, le fruit d'un inceste. Il avait des problèmes psychiatriques depuis toujours. Il avait d'ailleurs été déclaré irresponsable à plusieurs reprises. Et le jour où il apprend que les médecins vont le mettre dehors de l'hôpital psychiatrique parce qu'ils ne savent plus quoi faire de lui, il n'y a personne. Et il met le feu à cet hôpital et il y a plusieurs morts. Donc l'affaire était évidemment tragique. Et ce jour-là, à cette cour d'assises-là, j'ai des experts qui ont défilé pour me dire que tout allait très bien, qu'il était parfaitement responsable et que il n'y avait même quasiment pas d'atténuation de sa responsabilité pénale. Et donc ça, ça a été une autre confrontation avec cette autre misère-là qui existe, qui était tellement loin de mon histoire, de moi, et aussi le poids de ces experts qui est un des sujets qui m'anime encore aujourd'hui.
Alors, Jacqueline Lafond, au moment où vous êtes jeune avocate, on a aboli la peine de mort depuis peu. Il y a toute cette discussion, cette réflexion sur les prisons qui a été générée par les ouvrages de Foucault, sur la question de l'enfermement, de est-ce que la prison dégrade encore plus qu'elle n'aide à la réhabilitation, toute la réflexion autour de la punition. Vous êtes imprégnée de cette réflexion-là en tant qu'avocate de la défense au pénal ?
Oui, bien sûr, je me suis imprégnée de cela. Et puis, ce combat continue. Je suis très proche de Dominique Simoneau, que j'aime beaucoup, qui fait un travail formidable aujourd'hui en tant que contrôleuse des prisons. Les choses ont évolué, évidemment. Hein. Elles ne sont plus aussi difficiles qu'elles l'étaient à l'époque, mais elles le restent avec une surpopulation pénale qui est énorme. Je crois qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions dans certains cas. Je pense qu'il faut être parfois un peu pragmatique et réaliste. Mais je pense très profondément que les petites peines sont souvent plus dévastatrices que salvatrices.
Alors vous rentrez dans le cabinet de Pierre Haïck comme jeune avocate, juste après cette petite parenthèse dans ce cabinet d'affaires. Là, c'est une rencontre énorme qui se passe pour vous dans votre vie, une rencontre avec une méthode de travail, mais aussi une personne qui va devenir par la suite votre mari. Racontez-nous vos débuts. Jacqueline Lafond.
Alors j'étais donc, après mon stage dans un cabinet d'affaires, j'ai quand même vraiment insisté pour avoir un stage chez un juge d'instruction pendant l'école d'avocat que j'ai obtenue. Et j'étais donc dans le cabinet d'un juge d'instruction qui instruisait une affaire à l'époque et qui était l'affaire de ce Japonais qui a été accusé d'avoir découpé en morceaux et puis mangé une jeune étudiante suédoise, je crois, ou un pays du Nord. Et donc, je recevais, le juge d'instruction recevait, et moi, à ses côtés, un avocat pénaliste qui venait très souvent. C'était à l'époque le collaborateur de Philippe Lemaire. Et je lui dis que je cherchais à rentrer chez un pénaliste. Et il m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un que je connais qui est un avocat formidable. Je vais te le présenter. Il cherche une collaboratrice. C'est comme ça que je suis arrivée chez Pierre-Yves. Je ne connaissais personne. J'avais pas d'avocat, en fait, dans ma famille, encore moins d'avocat pénaliste. Et en fait, la première chose que j'ai aimée chez Pierre Haïck, c'était sa façon d'aborder la défense. Il avait une forme de liberté et de courage dans la défense. Il était très dépouillé de lui qui était quelqu'un de très moral dans la vie, dans sa défense des considérations morales. C'est-à-dire qu'un dossier tenait ou ne tenait pas. Il était un travailleur acharné et il avait une qualité que je trouvais absolument énorme. C'est que lorsque les gens venaient le voir, ils étaient pris en charge, déchargés. Et en fait, ils les soutenaient totalement. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui est passé en bas du cabinet, qui est monté, qui a voulu venir voir le bureau de Pierre. Et il m'a dit Pierre Haïck, c'était un gilet pare-balles. Et je trouvais ça très joli parce que, en fait, même si la référence est un peu. Mais parce que c'était exactement ça. C'est-à-dire que quand il défendait quelqu'un, il le défendait complètement. Il y avait une capacité d'indignation, de révolte que je trouvais formidable. Donc j'ai beaucoup appris, évidemment, auprès de lui, auprès d'autres également. Et naturellement, on s'est un peu réparti les choses. On avait peut-être des façons d'aborder la défense, pas du tout différentes sur le fond, mais sur la façon de travailler des dossiers, peut-être parfois un peu différente et complémentaire, je pense.
Alors, pendant la première décennie de votre travail commun, vous faites essentiellement du pénal général.
Je fais du pénal général, celui qu'on appelle le pénal ordinaire, qui n'a rien d'ordinaire. C'est-à-dire que je défends des braqueurs, des trafiquants de drogue, des voleurs, des violeurs, des assassins. J'ai beaucoup, beaucoup plaidé. J'ai parcouru avec ma petite voiture les prisons de France, de la région parisienne. Et je faisais aussi des comparutions immédiates, comme je vous le disais. Je pense que c'était très important pour moi de faire ça. Et je pense que j'ai beaucoup appris et je demande aujourd'hui à mes collaborateurs de faire aussi ce pénal-là. Je pense qu'on ne s'instaure pas avocat pénaliste. Je crois profondément que en défendant toutes ces personnes-là, j'ai encore une fois construit le socle de ce qui est la défense pour moi. J'aurais des milliards d'exemples. Par exemple, on défendait souvent des gens du voyage. Ce sont des gens très différents. Je me souviens de reconstitutions où j'arrivais à ma petite voiture dans des camps de gens du voyage, souvent des affaires de violence. On connaît des mondes qui sont des mondes que vous n'avez aucune raison ni aucune occasion de rencontrer dans une vie qui aurait pu être la mienne dans un autre métier. Et à chaque fois qu'on rencontre ces gens-là, si vous voulez, il y a d'abord une forme de richesse de ces vies-là. Il y a évidemment des actes affreux que l'on commet. Hein. Et quand on défend un homme, on ne défend pas l'acte, hein. On défend l'homme. Quoi.
C'est très important parce que c'est la critique souvent adressée aux avocats qui choisissent de défendre des violeurs, des assassins, etc. De dire, mais pourquoi défendre cet homme ? Vous expliquez ça justement, que ce n'est pas l'acte que vous défendez.
Évidemment, alors c'est vrai qu'il y a une sorte d'amalgame confusion qui est fait parfois entre l'avocat qui défend un violeur et qui donc défend le viol, l'avocat qui défend un criminel et qui donc défend le crime. Enfin, ça me paraît tellement évident et tellement fou d'avoir besoin de le dire et de le répéter. Quand on défend un homme, on défend un homme parce qu'on est avocat de la défense et on défend cet homme. On défend pas l'acte en lui-même, évidemment.
Et on défend la démocratie aussi, c'est-à-dire que l'idée d'avoir des droits de la défense maintenus, c'est l'idée aussi de garder une sorte de bonne santé démocratique dans un pays.
Absolument. Moi, je pense profondément que l'un des critères de mesure de l'état d'une démocratie, c'est probablement l'état de sa défense. Je pense qu'il est assez évident de dire que dans toutes les dictatures du monde, les droits de la défense sont bafoués. Et je pense que plus les droits de la défense sont défendus, parce qu'on doit les défendre, nous. C'est notre défense, nous. On doit s'en saisir. Et plus la décision qui sera générée par un procès avec une bonne défense, avec une accusation, parce qu'on n'est jamais seul, et un juge qui est censé trancher entre les deux, s'il n'y a pas de bonne défense, il n'y a pas de bonne décision.
Alors vous, quand vous êtes jeune collaboratrice auprès de Pierre Haïk, qu'est-ce que vous apprenez de la manière dont se décide une ligne de défense? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est intuitif? Parce que vous avez quand même des critères, notamment que votre client vous laisse faire, vous laisse le défendre.
Ça, c'est un premier critère qui était très important pour nous, pour Pierre et pour moi, c'est celui de la liberté de la défense. C'est pas toujours aussi simple que cela. Il m'est arrivé d'être confrontée à des situations délicates à ce sujet-là. Mais c'est ce qui peut conduire, en revanche, à ne plus défendre quelqu'un. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un militant à qui l'on reproche un acte qui vous demande d'avoir une défense militante, certains avocats le font, et c'est leur droit le plus absolu, et je le respecte complètement, mais ma vision à moi des choses, c'est que ma défense doit être libre. Et ma défense, je la recherche, ma stratégie de défense, si l'on peut parler de stratégie, toujours en me disant quel est le meilleur moyen de défendre cette personne. Est-ce que je peux décemment défendre son innocence au regard des éléments du dossier? C'est d'abord un énorme travail du dossier. La vérité judiciaire, pour moi, elle est celle du dossier.
Donc trop d'éléments à charge, vous essayez de convaincre votre client d'avouer peut-être.
S'il y a des éléments qui me paraissent incontournables, déterminants, j'essaie de le convaincre d'avouer. parce que, c'est relativement rare, mais parce que je pense qu'il n'y a pas la moindre place pour le doute. En revanche, si je considère que dans ce dossier-là, effectivement, il y a une zone d'ombre, il y a une part de doute, je chercherai, si je pense qu'elle peut être décemment soutenue, à la développer.
C'est-à-dire que si la relaxe est possible, c'est évidemment ça que vous allez chercher à tout prix.
Si la relaxe est possible, c'est ce que j'ai cherché. Vous savez, la vérité, c'est toujours quelque chose que l'on recherche, mais qui n'est pas forcément évident. La vérité, elle n'est d'abord pas toujours binaire, c'est pas faux ou vrai. La vérité, parfois, elle peut être trompeuse. Il peut y avoir des fausses vérités. Moi, j'ai toujours gardé en tête un procès dans lequel on était, pour une fois, pour une partie civile, qui était une des victimes de Guy Georges, qui s'appelait Pascal Escarfaille. C'était avec Pierre et aux côtés d'une autre consoeur qui s'appelle Solange Doumi, qui est dans cette affaire-là. Guy Georges a mis 8 ans avant d'être identifiée. Elle avait été violée et assassinée sauvagement. Son petit ami de l'époque avait été interpellé parce qu'on avait trouvé sur sa machine à écrire un texte romanesque qu'il était en train d'écrire, dont la scène ressemblait incroyablement à ce qui avait été vécu par cette jeune fille qui était son amie. Donc évidemment, les soupçons se sont immédiatement portés contre lui. C'est quelque chose de très troublant. Et la réalité, c'est qu'il a eu la chance, dans son malheur, là encore un petit bout de papier, d'avoir ce soir-là, avec 2 amis, commandé une pizza et il avait gardé le ticket. Et en réalité, il a réussi à être disculpé, mais il a quand même fait 2 jours plein de garde à vue. Et il a été suspecté au moment le plus abominable de sa vie, où sa petite amie venait d'être découverte, violée, assassinée. Donc en fait, il a des vérités trompeuses. C'est la raison pour laquelle, moi, je doute. Je pense que les juges doivent douter. Et quand il y a une place au doute, je pense qu'il faut l'explorer.
Vous préférez un assassin dehors à un innocent en prison, vous l'avez répété. C'est une phrase qui n'est pas toujours comprise. C'est parce qu'elle s'inscrit dans un système d'une justice humaine qui est un système imparfait, Jacqueline Lafont.
Oui.
Vous le vivez tous les jours, ce système.
Je le vis tous les jours. Vous savez, la justice, elle est rendue par des hommes et par des femmes, avec leurs qualités et leurs faiblesses. Pour moi, défendre cette idée que l'on ne peut jamais prendre le risque de faire condamner un innocent, c'est reconnaître qu'il doit y avoir une forme d'humilité dans la façon de rendre la justice. Ce sont, encore une fois, des hommes et des femmes qui peuvent se tromper, qui se sont trompés. L'histoire le démontre. L'histoire est remplie d'erreurs judiciaires. Alors, moi, je pense qu'entre les deux, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Tout doit toujours être fait pour s'assurer que jamais un innocent sera condamné.
Alors, avec votre mari, vous êtes un couple assez fusionnel, hein. Vous travaillez ensemble pendant très longtemps, avec une sorte de répartition des rôles. Mais progressivement, les choses s'équilibrent d'une certaine manière et on vous voit apparaître de plus en plus comme une sorte de couple comme ça, de ce grand cabinet qui se met à tourner autour d'une grande affaire qui va être l'affaire Roussin. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette première décennie de travail et de la manière dont s'est articulée votre vie avec Pierre Haïck, votre vie personnelle et votre vie au travail? Ce qui vous a formé, puis les choses sont devenues égalitaires entre vous, d'une certaine manière.
Oui, il m'a formée en premier. Il m'a montré le chemin. Et surtout, j'aurais pu ne pas aimer sa façon d'être avocat. Je l'ai aimé, non pas parce que c'était lui et parce que l'histoire, vous la connaissez ensuite, mais j'ai toujours été convaincue que c'était cette façon de défendre à laquelle j'adhérais. Et ça rencontrait finalement un peu mon idée de la défense. Donc j'ai énormément appris. J'ai appris de lui, mais j'ai appris de beaucoup d'autres. J'ai acquis de l'expérience. J'ai plaidé énormément. J'ai participé à un nombre de défenses incalculables.
Et vous avez plaidé tout de suite?
Ah, j'ai plaidé tout de suite. Les deux affaires dont je vous parle, les deux affaires d'assises dont je vous parle, c'est ma première année d'avocate. Je suis très jeune, moi, j'ai 23 ans. Et en fait, j'ai plaidé, alors je pense que c'était imparfait, mais j'ai plaidé, je crois, avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de conviction que j'étais à la place à laquelle j'avais envie d'être et que du coup, j'étais, ça peut paraître un peu prétentieux, ça ne l'est pas du tout, mais que j'étais à ma place. Et donc, voilà, et cette vie a été celle-là, très prenante et puis en même temps, la volonté de concilier cette vie-là avec une autre vie qui est tout aussi importante pour moi, qui est celle de ma famille.
D'ailleurs, vous allez avoir un petit garçon dans, oui, à cette période-là, un premier fils. Qu'est-ce que vous diriez justement de ce qu'est votre méthode et la méthode que vous avez co-inventée avec Pierre Haïk, justement. Qu'est-ce que c'est votre manière de défendre ?
Alors, tant qu'on a été tous les deux, on se répartissait un petit peu les choses. Naturellement, Pierre était très... Il était assez oriental dans ses goûts. Il adorait la musique orientale, etc. Mais il n'était pas du tout macho, pas du tout misogyne. Il adorait me mettre en avant et moi, je n'y tenais pas du tout. Donc, en fait, on était dans une espèce de répartition des rôles totalement naturelle. Et ce qui était fondamental pour nous et qu'il est encore aujourd'hui pour moi, c'est encore une fois d'assurer cet équilibre. C'est-à-dire de faire en sorte que la personne qui vient vous voir, elle se sente totalement défendue, librement défendue. C'est qu'il n'y ait pas de frein à cette défense. C'est que les horreurs, parfois, qui sont commises par les personnes que nous défendons, ne doivent pas être des freins à leur défense. Alors évidemment, ce qui compte, c'est que cette défense, elle soit juste, qu'elle soit crédible, qu'elle soit en capacité d'être entendue et d'être reçue, et qu'elle soit convaincante, quoi. On cherche à convaincre, et pour ça, on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, j'ai toujours adoré aller chercher dans chaque recoin des dossiers les éléments qui pourraient faire tomber un témoignage, aller fouiller dans des CD que personne n'avait jamais vus, parce que on se rend compte qu'il y a toujours une source d'informations qui peuvent parfois être utiles à la défense, qui ont été négligées, parce que souvent, les dossiers partent sur une voie et se ferment aux autres voies possibles. Donc on avait à la fois cette volonté totale de défendre les gens qui nous faisaient la confiance, de nous demander de les défendre, et en même temps beaucoup de travail, beaucoup de liberté dans ce choix de défense.
Alors vous êtes de cette époque, vous dites que d'autres vous ont appris. Quels sont les autres qui vous ont appris à cette période, Jacqueline Lafont ?
Alors, ils sont très, très, très nombreux. Mais quand j'étais jeune avocate, j'allais... D'abord, j'admirais profondément Robert Badinter, que j'ai eu la chance de rencontrer quelques semaines avant sa mort, avec lequel j'ai parlé pendant une heure dans son bureau de la Guinemer, juste avant sa mort. Et on a eu un long échange sur la justice qui restera très important pour moi. Mais lui, c'était plus il n'était plus là quand j'ai prêté serment. Il avait été ministre, il avait fait abolir la peine de mort. Mais ceux qui ont vraiment compté, il y a Philippe Lemaire, dont je vous parlais, Henri Leclerc, évidemment, qui est resté très proche jusqu'à la fin. Il y a eu Thierry Lévy, que j'étais allée écouter, plaider avec Henri Leclerc. Il y avait Jean-Louis Pelletier, dans un genre différent, formidable, avocat d'assises, Jean Iliena. Et puis, il y avait le cercle proche, j'en oublie forcément, mais Hervé Temim, voilà, qui n'est plus là. Thierry Herzog, qui est encore là, mais qui est interdit d'exercer, ce que je déplore.
C'est donc un univers très masculin du pénal dans lequel vous arrivez, vous, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a eu une grande évolution. Hein. Vous arrivez jeune femme dans ce monde-là, mais vous ne restez pas collaboratrice longtemps. Vous allez être associée.
Je vais être associée. Alors c'est vrai que je donne cette liste. Alors j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi une avocate, Françoise Cotta, qui était une avocate pénaliste formidable. Mais ce sont des hommes qui m'ont montré ce chemin-là. Je pense qu'ils m'ont plutôt accueillie à leur façon. Ils étaient d'une autre génération aussi. Mais c'est vrai que mes modèles sont masculins.
Merci Jacqueline Lafont. On a parlé de votre première décennie d'avocate pénaliste. Demain, l'affaire Roussin. C'était À Voix Nue avec Jacqueline Lafont, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Troncin, réalisation Anne de Pelchin. Une série disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.